Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Aurélie et merci d'écouter Erdiwa à l'écoute sur le 107.5 FM et sur le site www.rdwa.fr. Nous sommes en présence aujourd'hui de Didier Thévenot, suppléant de Corinne Morel-Darleux et co-secrétaire départemental du Parti de gauche dans la 3e circonscription de la Drôme. Comme vous n'êtes pas sans le savoir, François Hollande propose une clause de conscience permettant aux maires la possibilité de refuser le droit au mariage de personnes du même sexe. Hervé Mariton, député de la Drôme et maire de Cré, s'empare de cette décision et propose alors une motion contre le mariage pour tous le 22 novembre. Elle est donc adoptée à 19 voix contre 8. Plus 2 abstentions. Et c'est en réaction à ce sujet que Didier Thévenot est invité à s'exprimer. Bonjour Didier.
Bonjour.
Donc vous rejoignez le Parti de gauche en 2009, si je ne m'abuse.
Oui, c'est ça. Oui.
Mais avant ce combat politique, vous étiez professeur de philosophie et de cinéma.
Tout à fait.
Alors pour détendre l'atmosphère et par simple curiosité, est-ce possible de conjuguer philosophie et politique comme on l'entend aujourd'hui ?
Ah oui, je pense même que c'est essentiel. J'ai même plutôt dans l'idée que c'est la politique qui m'a amené à la philosophie, même si je suis dans un parti depuis peu de temps. C'est quand même la pensée politique qui me semble quand même être une pensée qui cherche à organiser les choses entre les hommes et que c'est ça qui m'a amené à la politique en fait.
Quelle réaction avez-vous eu face à la motion adoptée par la municipalité de Cré?
Alors d'abord j'étais présent à ce conseil municipal, je suis allé sur place. On a assisté à une parodie de conseil municipal avec un député maire, on ne savait plus trop véritablement quel rôle il jouait à ce moment-là. Extrêmement surprenant, quasiment surréaliste. Lui enchaînant des arguments peu compréhensibles, comprenant que ce qu'il disait perdait son sens au fur et à mesure qu'il le disait, allant à faire des rapprochements très douteux entre des expérimentations animales et la filiation que personne n'a compris véritablement. Et surtout, ce qui m'a moi le plus choqué en tant que comme politique, c'est cette confusion des genres entre le maire de Cré, entre le député, qui est venu donc apporter un débat national dans sa commune et donc du coup prendre ses électeurs communaux, municipaux à partie, les mettre à contribution dans le débat, et puis surtout son rôle d'officier d'état civil qui n'a rien à voir avec tout ça. C'est-à-dire que c'est en tant qu'officier d'état civil qu'il prononce le mariage et pas en tant que maire. Donc ça n'a rien à voir dans un conseil municipal, cette question.
Aujourd'hui, qu'en est-il de cette clause de conscience François Hollande a évoquée il y a quelque temps?
Ben, il s'est aperçu très vite, François Hollande, qu'il avait commis une énorme erreur en disant cela, parce que en aucun cas il ne revient à la conscience de quiconque qui représente l'État dans sa fonction de pouvoir avoir le choix. C'est absolument impossible. C'est comme si le policier disait « Ah non, tiens, je ne vais pas mettre une amende à un tel parce qu'il est blond, parce qu'il est, je ne sais pas, plutôt du nord, du sud. » Ça n'a strictement aucun sens. À partir du moment où on est officier d'état civil, on fait respecter la loi. Mais on a le choix de démissionner si on pense que la loi n'est pas bonne.
Alors concrètement, aujourd'hui, quelle est la position de François Hollande ?
La position de François Hollande est assez confuse, d'après nous, et parfois même ambiguë, parce qu'on a l'impression que ce projet de loi, qui est un projet vraiment formidable et qui porte au-delà du projet lui-même des idées d'égalité des droits que nous avons toujours défendues à gauche, eh bien on est en train de s'apercevoir qu'il est peut-être en train de rentrer dans une impasse à cause de la gestion justement qu'en fait le gouvernement. Ce recul sur la clause de conscience dont a parlé François Hollande, et puis aujourd'hui un débat qui est réservé à la droite, on entend absolument quasiment nulle part la gauche parler de ces choses-là. Les associations se sont emparées du sujet, mais le Parti socialiste, nulle part. Aujourd'hui, dans la circonscription, M. Mariton organise des réunions qu'il dit politiques et des débats qu'il dit démocratiques partout, mais on ne voit jamais le Parti socialiste faire quoi que ce soit. Voilà aussi pourquoi le Parti de gauche, lui, ne laissera pas faire la chose et compte bien aussi être présent dans le débat public sur la Drôme.
On en parlera un petit peu plus tard. Alors, comment expliquer que les décideurs, nos représentants, adoptent des mesures contre le mariage pour tous tellement radicales et discriminatoires, je le dis, je l'assume, alors que pour une grande partie d'entre eux, bafouent les fondements même du mariage?
Oui, c'est difficile à comprendre, mais en même temps, je crois que se joue là, et c'est ce que je voulais dire tout de suite, se joue là autre chose que ce simple projet de loi. Se joue là une vraie scission dans notre société française entre deux projets sociaux, sociétaux. Un projet sociétal qu'on voit se dessiner depuis de nombreuses années déjà, avec le recul du droit des femmes, avec le recul des plannings familiaux, avec une remise en cause du droit à l'avortement, et donc une pensée qui s'enracine dans une vision totalement naturaliste de l'humain, qui consisterait à dire « il y a l'homme, il y a la femme, il y a les enfants, la femme elle est faite pour faire des enfants, donc elle est fragile, le père doit la protéger, c'est le patriarcat ». Je simplifie, mais on n'est pas loin de ça quand on va dans les réunions publiques organisées par la droite sur ces questions-là. Et qui réunit là la droite et l'extrême droite. C'est la filiation intellectuelle entre la droite et l'extrême droite. Et puis, il y a une autre pensée qui consiste à dire que les êtres humains, en tant que personnes, sont une entité indivisible et qu'à partir de ce moment-là, ils ont tous les mêmes droits, quel que soit leur sexe, leur couleur. Ça s'appelle l'universalisme. C'est ce que nous défendons au parti de gauche. Et je crois que se joue là un vrai projet de société qui est fondamental chez nous et qui est à la limite de ce qu'on pourrait appeler un retour d'une forme raciste qui ne s'assume pas en France.
Donc Juppé, Le Pen, il y en a d'autres encore hein, qui sont bien sûr contre le mariage pour tous, parlent sans homophobie. Hein. On est d'accord.
Évidemment.
Question qui fâche, encore une fois, pas pour vous bien sûr, mais quelle position adopte le Vatican quant au mariage pour tous ?
Ah ben, l'Église a toujours été contre. Hein. Les religions en soi sont contre. D'ailleurs, elles se sont unies dès le début du dépôt de ce projet de loi, pour le dire, toutes ensemble. Toutes ne manifestent pas parce que certaines, visiblement, ont compris que si elles ont le droit de s'exprimer dans le débat public, elles n'ont pas le droit d'intervenir dans les affaires de l'État. Nous sommes quand même dans une république laïque. Mais il est clair que le Vatican est contre. Hein. On le sait, mais on sait aussi qu'il est contre la contraception et qu'il est contre l'avortement. C'est-à-dire que le débat aujourd'hui autour du mariage homosexuel est exactement le même. Quand on y réfléchit et qu'on voit les arguments qui sont amenés sur le terrain qu'on dit intellectuel, c'est la différence entre le droit des enfants et le droit à l'enfant. Et le droit à l'enfant, c'est le droit aussi à ne pas avoir des enfants. Et donc le droit à l'avortement. C'est-à-dire que les mêmes qui se battent aujourd'hui contre le mariage homosexuel et qui prédisent la fin du monde, parce que c'est ça, c'est l'apocalypse qui va nous arriver, sont les mêmes qui disaient que l'avortement allait amener la société à mourir. Hein. Ce sont les mêmes. Sauf qu'à l'époque, rappelons-nous quand même que c'est la droite qui a voté, et Simone Veil, qui a amené cette loi formidable, et que dans cette droite républicaine-là, il y avait encore quelque chose qui portait l'honneur de la droite. Aujourd'hui, on se demande où est cet honneur.
Est-ce que le Vatican, c'est s'exprime sur les divorces, les gardes alternées qui sont en conséquence effectives. Est-ce qu'il s'exprime à ce sujet-là ?
Je n'en sais rien. Je vous avoue que je suis très très peu au courant des décisions que le Vatican peut formuler sur le droit positif des États, parce que pour moi, ce n'est pas un critère de validité.
Pouvez-vous me parler de l'association SOS Homophobie ? Est-ce que vous la connaissez ?
Oui, alors c'est celle qui vient de se faire retirer son agrément,
tout à fait.
Me semble-t-il,
oui.
Dans l'éducation nationale.
C'est le ministère de l'Éducation nationale qui annule l'agrément de cette association.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Bah, écoutez, de ce que j'en sais, d'abord le Parti de gauche a pris position pour soutenir cette association. Et de ce que j'en sais, les reproches qu'on lui fait sont des reproches qui ne tiennent qu'à des propos qui sont donnés à leurs représentants, dans la formation de leurs représentants. Et en aucun cas des choses qui sont dites aux élèves. C'est-à-dire qu'on est bien obligé, quand on veut former des gens qui vont intervenir auprès des enfants, de faire des distinctions conceptuelles qui sont ou pour la religion ou contre la religion, et que tout ça me semble pas véritablement poser de problème, en tout cas pas plus de problème à mon sens qu'un député qui se dit républicain laïque et qui va, sous son mandat de député, porter la bonne parole de la religion à laquelle il adhère. Pour moi, c'est pas plus scandaleux, c'est même moins scandaleux, me semble-t-il.
Une question très directe, pensez-vous que la France est un pays corrompu ?
Alors ça dépend de quelle corruption on parle. Si on dit qu'il y a une corruption des idées en France, je dis oui. Je dis oui, je pense que il y a une forme de corruption intellectuelle en France qui date depuis un certain temps, qui a fondé une idéologie qu'on nous fait croire être un pragmatisme. On nous dit qu'on n'a pas le choix, que c'est comme ça. On a transformé peu à peu les mots. On est passé des gardiens de la paix aux forces de l'ordre. On est passé des cotisations sociales aux charges sociales. Et tout ça a créé une corruption intellectuelle, une véritable corruption intellectuelle. À côté de ça, y a-t-il une corruption financière ? Ça, j'ai plus de doutes là-dessus et je ne suis pas habilité à le dire.
Quelles conséquences l'adoption d'une loi contre le mariage pour tous pourrait engendrer ?
D'accord. Je pense que ça va nous amener à un recul social extrêmement important. Je crois que c'est ce combat-là, est un combat pour l'égalité de tous. Et donc, du coup, ce sera un recul aussi pour le droit des femmes et aussi pour le droit de toutes les minorités qui, jusque-là, se battent pour être reconnues au même titre que quiconque. Donc, je crois que si, aujourd'hui, le projet de loi déposé par le Parti socialiste et François Hollande n'aboutit pas, ça va être une véritable victoire d'une forme d'idéologie qui va nous faire reculer, je pense véritablement, dans les années 70, c'est-à-dire avant ces grands mouvements qui ont amené, justement, le droit à l'avortement et le reste. Parce qu'à partir de là, sera entériné le fait que la nature détermine notre comportement social. Et donc, du coup, dans ce sens-là, il y aura des gens qui auront des droits et des inégalités qui seront justifiées par la nature. Et ça, c'est encore une fois un retour non seulement sur un droit qui doit être le droit au mariage pour tous, mais aussi le droit des femmes, mais aussi le droit des étrangers, parce qu'on a déjà vu François Hollande reculer sur ce droit-là, sur le vote des étrangers non communautaires aux élections municipales, et ce serait un échec non seulement pour le gouvernement, mais ce serait un échec idéologique pour la gauche. Et c'est pour ça que ce combat n'est pas qu'un combat parti socialiste contre UMP, c'est un combat idéologique et vraiment social qu'il faut que les Français puissent prendre à bras-le-corps et que la loi soit portée par nos députés jusqu'au bout.
Alors maintenant, quelles conséquences l'adoption d'une loi en faveur du mariage pour tous pourrait apporter ?
Eh ben, c'est presque le contraire, c'est-à-dire que ça va nous apporter une forme de libération. Tout à coup, on va sentir un peu comme au lendemain des élections présidentielles, quand on a vu le départ de Sarkozy, tout de suite dans les discours qui étaient énoncés par les nouveaux responsables, même si on n'est pas, nous, d'accord au parti de gauche avec ce qui se dit, on a quand même senti un air se libérer et on a senti quand même les fenêtres s'ouvrir. Je crois que si ce projet de loi est adopté, avant d'avoir des conséquences réelles et effectives tout de suite, je crois que ça va donner dans les esprits une certaine latitude de pensée. On va d'un seul coup s'ouvrir dans un monde qui va se dire « aujourd'hui, le patriarcat est mort. Aujourd'hui, on n'est plus sous la domination masculine. Aujourd'hui, on n'est plus obligé, et il faut encore aller plus loin, on le sait, hein, dans le droit des femmes, dans l'égalité, la parité, etc. Et ça nous permettra peut-être aussi de dire à M. Mariton, qui a voté contre la parité homme-femme quand même dans la haute fonction publique, ça nous permettra peut-être de dire à ces députés-là « maintenant, vous êtes obsolètes ». Passez la main, il y en a marre, on ne veut plus vous voir.
Donc concrètement, peut-on évoquer les droits que cela nous accorderait ?
Alors d'abord, ça accorderait des droits qui sont très importants, me semble-t-il, et qui nous permettraient aussi de sortir d'une certaine forme d'hypocrisie, c'est le droit à l'adoption pour les couples homosexuels. On le sait bien aujourd'hui que de nombreux couples homosexuels adoptent des enfants, mais les adoptent justement ou l'un ou l'autre, parce qu'ils n'ont pas le droit aujourd'hui en tant que couple de les adopter, ce qui crée d'abord une forme d'hypocrisie parce que l'enfant est élevé par un couple homosexuel. Et tout se passe très bien, les études sont très claires là-dessus. Ça, c'est la première chose. Et puis d'autre part, par contre, on crée un préjudice très important dans le rapport du couple, puisque un seul des deux a un droit et que l'autre n'en a pas. Et là, on met l'enfant en danger. Et là, on le pose comme un objet qui serait susceptible d'être l'enjeu de quelque chose. Donc du coup, ça va permettre quand même de protéger aussi le droit des enfants. À partir du moment où une filiation sera entérinée, elle sera inaliénable. Et donc à partir de ce moment-là, les deux parents pourront continuer de revendiquer et d'être le parent réel de l'enfant. Et puis, je crois vraiment que pour nous tous, au-delà même des couples homosexuels, ça va donner la possibilité à chacun de comprendre qu'il y a une distinction dans une société entre des modes de vie. Il y a des différences entre individus et que ces différences, ce n'est pas en voulant les stigmatiser et en les ramenant à des inégalités naturelles qu'on arrivera à vivre ensemble. C'est une manière de savoir vivre ensemble aussi. Et je comprends M. Mariton quand il parle, parce que chez lui, c'est dans les tripes. C'est-à-dire qu'il se sent incapable d'avoir deux hommes en face de lui et de leur demander s'ils veulent se prendre pour époux. Je le sais incapable de ça. Et c'est viscéral quasiment. Et je crois que quand on arrive à dire à deux hommes qu'ils s'aiment, leur demander s'ils s'aiment, leur demander de prouver qu'ils s'aiment, les regarder s'embrasser, ou deux femmes, je crois qu'on est au-delà d'une conception restrictive de l'humain et que ça nous permet à tous de voir beaucoup plus loin que le bout de notre nez, quoi.
Donc ça permettra aussi, hein, je tiens à le signaler, aux couples lesbiens de procréer aussi de manière assistée médicalement, pardon. Voilà, ça, on ne l'a pas évoqué.
Sans être tout à fait un imbécile fini, je n'ai rien du penseur, du phénix, du génie. Mais je ne suis pas le mauvais bougre, j'ai bon cœur. Et ça compense à la rigueur
quand les cons sont braves. Comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Qu'ils commettent, se permettent des bêtises, des sottises, qu'ils déraisonnent. Ils n'emmerdent personne, par malheur sur terre. Les trois quarts des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils s'agitent, ils s'excitent, ils s'emploient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde. Si le sieur X était un lampiste ordinaire, il vivrait sans histoire avec ses congénères. Mais hélas, il est chef de parti, l'animal. Quand il débloque, ça fait mal. Quand les cons sont braves, comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Qu'ils commettent, se permettent des bêtises, des sottises, qu'ils déraisonnent. Ils n'emmerdent personne, par malheur sur terre. Les trois quarts des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils s'agitent, ils s'excitent, ils s'emploient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde. Si le sieur Z était un jobastre sans grade, il laisserait en paix ses pauvres camarades. Mais il est général, va en guerre, mat à mort. Dès qu'il s'en mêle, on compte les morts. Quand les cons sont braves, comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Qu'ils commettent, se permettent des bêtises, des sottises, qu'ils déraisonnent. Ils n'emmerdent personne, par malheur sur terre. Les trois quarts des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils s'agitent, ils s'excitent, ils s'emploient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde. Mon Dieu, pardonnez-moi si mon propos vous fâche, en mettant les connards dans des peaux de vache, en mélangeant les genres, vous avez fait la terre ce qu'elle est, une pétaudière. Quand les cons sont braves, comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Qu'ils commettent, se permettent des bêtises, des sottises, qu'ils déraisonnent, ils n'emmerdent personne. Par malheur sur terre, les trois quarts des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils s'agitent, ils s'excitent, ils s'emploient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde.
Donc, allons faire maintenant un petit tour d'horizon chez nos petits voisins. Comment ça se passe?
Alors, en Europe, il y a quand même des membres de l'Union européenne qui reconnaissent le mariage homosexuel. Et dans le monde, il y a des pays qui reconnaissent le mariage homosexuel. Il y a même des églises qui prononcent, des prêtres qui prononcent des mariages homosexuels, comme en Argentine. Bien que le droit d'avortement, justement, là-bas, ne soit pas accepté, ce qui est étrange. Donc, du coup, de ce point de vue-là, il y a un véritable progrès dans la société, un peu partout dans le monde. Mais moi, j'ai toujours un peu de peine avec les comparaisons avec les autres pays. Parce que il est toujours très facile de comparer ce qui nous arrange dans un autre pays et de laisser ce qui nous dérange. Aujourd'hui, par exemple, au niveau économique, on nous montre l'Allemagne comme un modèle. Très bien, si on regarde les salaires des Allemands, pour moi, ce n'est pas un modèle. Donc du coup, c'est un argument dont je me méfie beaucoup, cette comparaison avec les autres pays. Mais ce qui est certain, c'est qu'au niveau global, au niveau mondial, il y a une véritable avancée des droits des humains. Oui.
On va revenir au parti de gauche plus précisément. Quelle solution propose le parti de gauche pour résoudre ce problème qui est la discrimination finalement face à la question du mariage?
Il n'y a véritablement pas d'autre choix que la loi à ce moment-là, pour une bonne raison, c'est que les arguments à avancer contre le mariage homosexuel ne sont d'abord pas des arguments rationnels, qu'on justifie quand même par une pseudo-science ou un pseudo-scientisme assez étrange. Allez dans les réunions organisées et vous voyez là des auriculothérapeutes qui viennent vous dire que comme les homosexuels peuvent avoir des cancers du rectum plus fréquents, ils vont mourir plus jeunes, donc il ne faut pas qu'ils aient d'enfants. On entend des choses assez fabuleuses et des analyses scientifiques d'une pertinence incroyable. Donc du coup, il n'y a que la loi qui peut permettre ça. Et c'est le rôle du législateur parce qu'on se trouve là face à un problème qui est antérieur aux sociétés. C'est-à-dire c'est l'idée que la société serait fondée sur la famille et sur quelque chose qui viendrait ou d'une loi divine ou d'une loi naturelle inaliénable. Donc du coup, si à ce moment-là, comme on est dans la croyance en définitive, comme on est dans la conviction intime, Il n'y a que la loi qui peut décider. Et le parti de gauche veut que cette loi arrive. Et d'ailleurs, il regrette que cette loi n'aille pas plus loin encore et ne donne pas plus de droits. Mais il faudrait d'autres lois bien ailleurs, dans d'autres endroits et pour d'autres minorités. Mais à part la loi, il n'y a rien d'autre.
Donc alors, vous proposeriez des textes de loi qui défendraient quel point plus particulièrement, si vous le voulez bien ?
C'est-à-dire que le projet de loi tel qu'il est amené est un projet de loi qui s'intitule, pour l'accession au mariage pour les couples de même sexe. Mais nous voudrions qu'il soit très très net et qu'il montre le droit à la filiation. Et d'ailleurs, il le sous-entend et il en parle, ce projet de loi traite ce problème de la filiation. Mais ce que lui reprochent ses opposants, et c'est là où c'est pas très clair, c'est justement que les opposants lui reprochent de sous-entendre qu'il va y avoir filiation, et ils attaquent sur cette filiation, sur le problème de la filiation. Donc, je crois que quand on a une idée, et quand on a une idée du droit, et du droit, des droits humains et de l'intérêt général humain, il faut aller jusqu'au bout, il faut l'assumer. Et oui, bien sûr qu'il faut un droit à l'adoption qui soit clair, qui soit net, qui soit dans la loi et qui protège tout le monde. Il n'est pas question là de donner un privilège à une minorité, il est question de ramener une minorité stigmatisée à égalité avec l'ensemble des autres êtres humains.
Étiez-vous aux manifestations du 17 novembre à Lyon ?
Non.
Non ? Je crois qu'il y a eu des altercations sur place.
Oui, je crois qu'il y en a eu quelques-unes.
Donc, vous pouvez en parler ou pas ?
Non, j'en sais pas plus que ça. Je sais ce qui s'est passé à Paris, oui. Mais je ne sais pas trop ce qui s'est passé à Lyon.
Que s'est-il passé à Paris ?
Mais à Paris, il y a un mouvement qui s'appelle les Femmes, qui est un grand mouvement international de défense des droits des femmes, qui a très bien compris que l'enjeu là était un enjeu qui allait au-delà de l'homosexualité et qui est venu manifester contre ce grand mouvement qui s'appelle Civitas, qui est un mouvement rétrograde, on ne peut pas faire plus rétrograde. Et elles ont été littéralement attaquées, bien qu'elles ont été provocatrices, évidemment qu'elles ont été provocatrices, parce que c'est leur manière d'intervenir dans le débat et d'attirer l'attention justement sur des comportements qu'elles jugent, elles, néfastes à nos sociétés et que je juge aussi néfastes à nos sociétés. Et donc du coup, à leur provocation, on a répondu de manière extrêmement violente. De grands, beaux, jeunes hommes rasés les ont frappés à coups de pied, à coups de poing, faisant les mâles protégeant leur cours, comme on sait que c'est le faire l'extrême droite en définitive. Évidemment que je condamne ça, mais en même temps, ces femmes ont un courage fou de montrer que derrière ce qu'on prétend être des idées, il y a une vraie violence sociale. Et que cette violence sociale, si on la gratte un peu, si on la chatouille un peu, elle devient une vraie violence physique. Et c'est ça qu'elle cherche à démontrer et à dénoncer.
C'est vrai que pour le coup, il y a eu passage à l'acte.
Oui, voilà. Il y a eu passage à l'acte.
C'est le plus effrayant à mon avis. Allez, la question qui fait grincer des dents.
Allez-y.
Si Hervé Mariton était devant vous aujourd'hui, que lui diriez-vous ?
Qu'est-ce que je pourrais lui dire ? Je pourrais lui demander ce qu'il pense de l'avortement et où il était en 1975. Je serais curieux de savoir s'il était... parce qu'il devait avoir 17 ans, je crois, à cette époque-là. Mais avec l'ambition qu'il a amenée jusqu'ici, il devait déjà avoir ses entrées en politique et il devait déjà s'intéresser à la politique. J'aimerais savoir s'il aurait insulté Simone Veil, comme l'ont fait beaucoup de ses collègues de droite à cette époque-là. Parce que ça m'intéresse, j'aimerais bien connaître son point de vue sur l'avortement et où il était en 1975.
À bon entendeur. Allez, le 16 décembre, une manifestation en faveur, du droit au mariage pour tous est organisée. Vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors ça va être un grand moment, je crois, dans ce grand mouvement. Le parti de gauche... appelle à rejoindre ce mouvement. Je serai sur Paris à ce jour-là, donc j'espère bien pouvoir m'y rendre. À l'appel de plusieurs associations, va avoir lieu à Paris une grande marche et un grand rassemblement pour justement défendre ce projet de loi et pour défendre cette idée que l'égalité entre les hommes, on va dire entre les humains, soit véritablement respectée et que la France, pays des droits de l'homme dans le monde, puisse enfin de nouveau, depuis très très longtemps, se regarder en face et ne pas avoir honte justement de ces défilés de Civitas et autres et de ces réunions qu'on dit publiques ou débats démocratiques qui véritablement n'honorent pas la patrie de la Révolution.
Je vous laisse le mot de la fin, si vous voulez.
Mais écoutez, d'abord, je suis ravi d'être venu jusqu'ici. Je crois que je suis votre premier invité politique, donc
tout à fait.
Pour moi, c'est un honneur. Je voudrais juste dire qu'il serait souhaitable que tous nos concitoyens comprennent que ce débat est un débat d'enjeu capital. Ce n'est pas qu'un simple projet de loi, encore une fois, c'est une fracture sociale qui est en train de se créer, qu'on est en train de créer. On sait qu'il y en a déjà une. On sait que depuis la montée du Front National, que depuis quelques années, la stigmatisation, cette extrême droitisation de l'UMP, avec cette fracture dans l'UMP elle-même, hein, à cause de ça, semble-t-il, aussi, parce qu'il y a des républicains à l'UMP ou des gaullistes qui sont mal à l'aise avec ça, et des gens qui fuient la droite pour aller vers le centre. On sent qu'en France, on est à un tournant idéologique. Il va y avoir là, ce débat-là, c'est un débat, hein, c'est pas un combat pour moi, c'est un débat. C'est un débat pour la démocratie, c'est un débat pour les valeurs de la France, d'égalité, de liberté, de fraternité. Et j'aimerais que tous nos concitoyens comprennent que ce débat est important et s'y engagent à fond. Parce qu'aujourd'hui, dans les réunions, on ne voit que des gens contre, on ne voit que des anti, que des gens qui viennent lutter. Rappelez-vous, essayez de vous rappeler la dernière fois que la droite est descendue dans la rue, il y a très longtemps. Donc si la droite est dans la rue, c'est parce qu'il y a une raison pour elle, parce qu'il y a une vraie raison idéologique. Et je pense qu'il faudrait que nos concitoyens en prennent conscience.
Eh bien, merci Didier Thévenot d'être venu vous exprimer au micro d'Air Diwa. Cette interview est désormais disponible sur le site www.rdwa.fr et ce, de manière illimitée. Moi, je vous dis à bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir. Interview. 1 Terre.
L'interview du jour.